Bienvenue à Escale 16-17 avec Fulgence Plat au micro, la dernière de la semaine. À 16h, je vais recevoir Eric Grenier qui est le cofondateur de Netlo. Netlo, c'est quoi? C'est la première application au Québec qui offre une vitrine gratuite aux grandes entreprises et PME québécoises. Et en deuxième partie d'émission, voilà, le chroniqueur de Comic Book à 16h30. Christian Lacasse qui vient nous parler du 30e anniversaire de la mort du Superman et puis un deuxième 30e anniversaire surprise juste après le 30e anniversaire de la mort de Superman, Comic Book. Voilà, vous allez en savoir plus à partir de 16h30 avec Christian Lacasse. Et tout de suite, mon invité Eric Grenier, qui est cofondateur de Netlo, qui va nous parler de cette application qui permet aux Québécois de s'offrir une vitrine gratuite Voilà, et c'est une vitrine gratuite aux grandes entreprises et puis aux PME. Bonjour, Eric Grenier.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir le temps de venir nous parler de cette première application au Québec après le défi sanitaire de deux dernières années du maudit virus. On peut l'appeler comme ça. C'est moi qui lui ai donné ce surnom-là. Nous voilà devant un stress financier tant pour les entreprises que pour les consommateurs. Alors, plusieurs hausses de taux directeurs, le mot inflation, sur le bout des lèvres de tout le monde. Donc, les Québécois cherchent des solutions immédiates pour économiser et les entreprises luttent pour préserver leur clientèle. Voilà. Comment, donc c'est la pandémie qui vous a poussé dans votre tranchée technico-technique pour mettre Netlo sur pied, quoi, voilà.
Oui, exact. Ben, un petit peu avant la pandémie.
Et puis vous êtes aussi consommateur ou bien entrepreneur, oui, en même temps.
Exactement. Donc on cherche toujours des façons d'économiser ou de mieux économiser.
C'est ça.
En même temps, en tant qu'entreprise, on cherche de la belle visibilité, le moins cher possible. Donc j'ai décidé de faire une application gagnante, comme on dit.
Oui.
Donc tout le monde gagne avec cette application.
Voilà, même Eric Grenier lui-même. Là, mettons le côté entrepreneur à côté, vous en tant que consommateur aussi. Voilà. Alors, je vous dis bravo vous à votre et toute l'équipe qui est derrière, ça il faut le dire. Parce qu'une telle application, ça se fait pas seul. Oui. Comment l'idée est venue? C'est vous qui avez dit, les gars, on va essayer de faire quelque chose pour essayer
allez-y. Oui, exactement. J'ai eu l'idée, c'est simple. Simplement, on est allé faire une petite fin de semaine de famille dans le coin de Québec.
Oui.
Puis on cherche toujours on cherche tout le temps à découvrir des nouveaux endroits. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui gagnent à être connues. On parle pas assez des plus petites entreprises. Donc, c'est l'idée m'est venue comme ça.
Oui.
On n'a pas d'application. On a toujours nos téléphones sur nous.
Oui.
Donc, c'est comme ça que l'idée est venue. J'ai parlé avec mon équipe. Et puis, on a mis ça sur pied. Ça fait 2 ans qu'on y travaille. Donc, là, je suis vraiment fier de ce qu'on a sorti.
Oui.
Et voilà. Dans le fond, on veut vraiment faire découvrir nos entreprises, nos belles entreprises qu'on a au Québec.
Oui.
Qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Oui. C'est de là que l'idée est venue.
Et ce qui m'a surpris d'ailleurs, Eric, c'est que vous avez déjà 25 partenaires.
Oui.
Plus de 25 partenaires, pas 25 juste, mais plus de 25 partenaires.
Oui, on est déjà rendu à 46.
Waouh! Allez, dites-moi, qui a été le premier partenaire qui vous a contacté? Quelle entreprise qui vous a contacté d'abord? La première
qui a cru en nous, c'est Couchetard. C'est les premiers et non le moindre. On s'entend que c'est un fleuron québécois, puis ils ont cru en notre idée.
Oui.
Et Couchetard a décidé d'embarquer. C'est les premiers qui ont embarqué avec nous.
On leur dit merci. Elle dit non, ces jeunes gens-là, on leur fait confiance, on va aller avec eux.
Oui, tout à fait, exactement. On commence. Oui, c'est ça.
Alors, comment ça se passe? Comment ça s'utilise, cette application?
Ah, c'est simple. Les gens, ils ont juste à venir s'inscrire. Télécharge sur les deux plateformes, Apple Store, Google Play.
Oui.
Télécharge Netlo.
Oui.
Netlo.
Oui.
Simplement, puis par la suite, ils peuvent voir les offres qu'il y a de disponibles. Et par la suite, ils les utilisent.
Il faut s'inscrire.
Oui, exactement, il faut s'inscrire. Mm-hmm. Dans le fond, c'est gratuit pour les entreprises.
Oui.
Mais le consommateur, il y a un léger frais parce qu'on a quand même des frais d'attacher à fabriquer une application.
Oui.
Nous, ce qu'on a pensé comme prix, le mieux, le plus abordable possible, c'est un prix qui peut se rentabiliser en une offre.
Oui.
On a des offres de plusieurs qui sont extrêmement intéressantes qui, en une seule fois, peut être remboursée. Donc, on parle d'un prix de 19,95 annuellement.
Wow!
Et en même temps, avec ce prix, comme Couchetard, par exemple, ils nous font confiance, mais en même temps, ils ont décidé d'offrir l'application à leurs employés. Fait que c'est une possibilité pour les associations ou pour les employeurs d'offrir une netlo pour un prix encore plus abordable.
Ouais. Alors, quand je vois la liste de vos partenaires, là, je vois tout de suite, même sans ce moment, vos partenaires. Mais dis donc, vous raflez lourd, hein, Eric.
On essaye, on travaille fort.
Bravo. Rogers, Vido, La Vie en Rose, IGA, Couchta, comme vous l'avez dit, le premier partenaire. Note comme concessionnaire. Waouh. Je me suis dit, non, il faut qu'on en parle, là. Voilà. Voilà, avec plaisir. C'est pour ça qu'on fait de la radio, Eric. Alors, oui. Quand on sort une application comme ça et puis tout de suite, ça se met à marcher, en tant qu'entrepreneur et techno, comme vous êtes une personne technologique en même temps, avec toute l'équipe d'ailleurs, et on va parler de l'entreprise qui est derrière tout ça après. Vous vous dites, est-ce qu'on va rester là, soit parce que ça marche qu'on va rester là? Est-ce que déjà il y a d'autres idées qui sont en train de trépigner dans votre tête, là, de technicien, là?
Oui, toujours. On est avec une équipe de créateurs. Donc, quand on est avec des créateurs, c'est tout le temps. On veut toujours améliorer l'application. Déjà, depuis qu'on est sorti, que l'application est sortie, on essaie de l'améliorer constamment. On essaie d'amener des nouvelles choses sur l'application pour que ça soit toujours le plus facile possible.
Oui. Et je suis allé sur le site même d'ailleurs, j'ai vu que c'est convivial, intuitif et facile d'utilisation, au menu d'un code barre, d'un code QR et puis d'un code promotionnel. Ça utilise aussi la géolocalisation pour permettre aux clients d'avoir accès à toutes les offres qui s'offrent, quels qu'ils soient, services, des assurances, plein d'essence, nouvelles paires de chaussures, des nuits d'hôtel et plus encore. Oui, mais vous n'avez rien laissé au hasard.
Non, exactement. On a essayé vraiment, comme je dis, à cette heure, on a vraiment toujours notre téléphone sur nous.
Oui.
Donc, les entreprises qui ont pignon sur rue, ils peuvent s'afficher et puis on peut planifier des voyages, on peut planifier, ou peu importe où ce que nous nous trouvons, il y a toujours une offre qui est près de nous. Et c'est pour ça qu'on a fait une géolocalisation, mais il y a des offres aussi en ligne. On a vraiment essayé de rendre ça le plus facile possible, puis de trouver le plus d'offres possible.
Wow.
Pour essayer d'aider à économiser, justement.
Oui. Et puis ça peut, comment dirais-je, même le site de Netlo peut conduire les consommateurs, les diriger vers d'autres sites, même tout ça. Vraiment, c'est génial. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh.
Oui, exact. Parce que dans le fond, quand on regarde une offre, on en suggère des similaires.
Oui.
Donc, ça peut nous aider à découvrir d'autres entreprises qu'on n'aurait pas pensé. Là.
Oh, oui.
Le but, c'est vraiment de faire découvrir les entreprises qu'on a.
Waouh. C'est ça. Alors que le taux d'inflation et la consommation a connu sa plus forte progression annuelle en 40 ans, augmenté de 7,6% d'une année à l'autre en juillet dernier d'ailleurs, les consommateurs sont de plus en plus à la recherche d'alternatives pour réduire leurs factures. Voilà, mais c'est je ne sais pas, je pense bien que tous ceux qui nous écoutent, qui vont entendre ça, n'hésitez pas, si vous avez un téléphone cellulaire, allez-y là-bas, sur Apple Store, Google Play et autres.
Pour télécharger une application. C'est vraiment une application mobile.
Oh, c'est ça. N-E-T-L-O. N-E-T-L-O. Netlo. Voilà, c'est une excellente façon pour les entreprises locales aussi de se rattraper post-pandémie et en pleine inflation. Les ventes des détaillants canadiens qui ont diminué de 2,5% cet été. Mais et les entrepreneurs, là, vos partenaires communs, ceux qui sont déjà partenaires avec vous ici, ils se disent, mais ces jeunes gens, ils vont nous sauver la vie, ou bien ils sont venus nous aider aussi, on va collaborer avec eux, quoi.
Vous parlez de?
De vos partenaires.
Oui, dans le fond, on travaille ensemble. C'est vraiment d'essayer là, de. Oui, exact. Eux, ils viennent nous voir en nous disant enfin. Quand on parlait encore ce matin, je parlais avec des entreprises, puis ils nous demandent justement, c'est gratuit. Oui, oui, c'est gratuit de s'afficher, mais ça prend une offre pour nos membres, mais c'est gratuit.
Oui.
Donc, oui, ils voient ça vraiment d'un bon œil, puis on est là pour s'entraider. Donc, on s'entraide tout le monde. Ça fait une boucle. Donc, l'entreprise est vue gratuitement sur notre offre, fait un rabais pour nos membres économisent, tout le monde est gagnant.
Oui.
Voilà, ça fait une boucle.
Oui, 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 oui. Voilà, même parce qu'il y a des gens qui sont pas trop techno, ouais, c'est comme je l'ai dit sur le site, votre site là-bas, j'ai vu que c'est très convivial, facile à utiliser. Hein. Ou bien est-ce qu'il y a des gens qui vous appellent pour dire j'ai tel problème, il y a le support technique qui est là aussi pour pas seulement pour les entreprises mais pour le consommateur qui paye du 9$, disons $20 l'année.
Oui, oui, on a tout le temps une équipe. On a une équipe de 28 employés.
Oui.
Qui, dans le fond, qui travaille vraiment sur notre loi, s'assurer que le tout est conforme, le tout fonctionne bien.
Oui.
Donc, on répond vraiment rapidement. On n'a pas beaucoup de problèmes parce qu'on a fait énormément de tests avant.
Oui.
Mais au besoin, si les gens ont besoin de se connecter ou ils voient qu'il y a un certain problème, nous, on est là pour les assister sans problème.
Oui. Est-ce que ça vous traîne dans la tête de rendre ça un peu pan-canadien?
Oui, on a déjà des demandes. Un matin, on a justement signé une entente avec Dormez-vous. Puis eux, ils ont une division qui est Sleep Country à travers le Canada. Puis ils ont demandé à quand on amenait des offres canadiennes.
Oui.
Donc, on est en train de travailler là-dessus. Justement, là, on est avec IGA. Puis eux, c'est Sobeys à travers le Canada. Uh-huh. On va commencer par marcher avant de courir, mais... ça regarde bien, on travaille bien au Québec, puis il y a une demande pour aller vraiment là, pan-canadienne. Quand ça sera le temps, on va s'y rendre, on est prêt.
Je vous le souhaite, Eric, je vous le souhaite, merci. Sincèrement. Merci. Et on parlait un peu de la maman qui est derrière ce fils-là.
Oui.
Pénéga.
Oui, je ne sais pas là si Pénéga n'était pas avec moi.
C'est ça.
C'est mon associé, elle s'appelle Caroline Brunel.
Oui.
Et c'est la PDG, là, justement, de Pénéga.
Mmh. Qui existe depuis 1994, en plus. C'est pas deux jours, hein?
Non, ça va faire bientôt 30 ans là, que PDG existe.
Vous avez ramassé tellement de prix. Quand j'ai vu la liste des prix que vous avez eus, là, j'ai dit, mais Eric et son équipe, là, ils dorment pas, hein?
Oui, mais là, je peux pas prendre le crédit parce que Pénéga, ça m'appartient pas. Pénéga, ça appartient vraiment à Caroline Brunel. Elle
oui.
m'a fait confiance.
Oui.
Et elle a décidé de devenir associée dans Netlo et on a lancé Netlo ensemble.
Oui.
Donc, je peux pas prendre le crédit là, pour Pénéga, mais moi, j'en suis fier de travailler avec eux.
Oui.
Justement, c'est une grande entreprise là, qui est reconnue. Là. C'est le fun d'avoir une entreprise de même qui encourage des entrepreneurs qui ont des bonnes idées.
Mm.
Donc, je me trouve très, très chanceux.
Comment se passe la collaboration, disons? Oui.
Comment
se passe la collaboration?
Ah, vraiment très bien. Vraiment très bien. On a une bonne équipe, justement, de créateurs. C'est vraiment du monde qui ont beaucoup d'expérience. Puis c'est le fun d'avoir du monde comme ça qui nous entoure.
Oui.
Donc, oui, ça se passe très bien. Là. J'adore l'équipe. Ils sont vraiment formidables.
Mm. Alors, je me dis, de toute façon, les gens, quand ils inventent, quand ils mettent des choses comme ça sur le marché, avant que le produit même ne fête son premier anniversaire, déjà, ils sont en train de penser à un autre produit, peut-être plus puissant que ça, ou bien la version 2.0, comme on dit.
Oui, exact. On est toujours... Un entrepreneur, c'est comme ça, ça l'arrête jamais. Même quand on dort, je pense qu'on travaille quand même. Donc, on est toujours à la recherche là, pour essayer d'améliorer les choses, effectivement.
Oui. Est-ce que actuellement, pour les jeunes gens qui nous écoutent, qui aimeraient bien faire partie de votre aventure, ça c'est le domaine des programmeurs, hein. C'est, oui. Si je ne me trompe pas, est-ce qu'ils peuvent s'adresser directement à vous, aller sur le site de Netlo ou bien sur le site de Pénéga? Comment ça se passe?
Directement sur le site de Netlo. Netlo, c'est quand même une entité à part.
Oui.
Donc, ils peuvent simplement, s'ils veulent nous écrire, on a une place sur netlo.ca.
Oui.
Dans le bas. Ils peuvent simplement nous écrire un texte, puis on est disponible pour répondre aux questions, là, sans problème.
Génial. Voilà. Et puis, un dernier mot à nos consommateurs, y compris vous-même.
Oui, bien sûr.
Un dernier mot aux consommateurs avant de vous laisser, Eric.
Ouais, dernier mot, je pense qu'on est là pour faire la différence. On veut vraiment là, on veut créer un mouvement. Donc, c'est le temps. On cherche des économies. C'est le temps. On travaille pour ça. Puis, on est fiers de ce qu'on a créé.
Ah là, oh là, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Éric Grenier, cofondateur de Netlo, voilà. C'est la première application au Québec qui offre une vitrine gratuite aux grandes entreprises et PME. Merci beaucoup, bravo à vous, à toute l'équipe.
Merci à vous.
Et au président de vous réentendre pour une autre application pour un autre domaine, pourquoi pas.
Pourquoi pas, on sait jamais.
On sait jamais. Allez, bon week-end Éric Grenier.
Vraiment, bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Queremos aquello difícil de lograr. Es ofrecer, llevar la meta a su fin. Prometer que la veremos cumplir. Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. Siempre mis huellas dejar. Puedes llegar lejos, a las estrellas alcanzar, hacerte sueños realidad, y puedes volar alto sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer.
Et là, on vient d'écouter Carlos Rivera et la grande Gloria Estefan Puelles, les gars. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Même si c'est pas son heure, il est déjà en studio avec moi. Christian Lacasse.
Je te laisse y aller. C'est ton segment, là. C'est pas le mien.
Je te salue même pas maintenant, là. Alors, je vais parler de quoi maintenant, rapidement, parce que là, quelque chose qui me... Ouais, je vais parler de francophonie. Voilà. Francophonie. Après quatre ans de doute sur son organisation, le 18e sommet de la francophonie s'ouvre en Tunisie. Voilà. Ça, c'est comme ça. Ça commence quand? Demain. Demain, c'est samedi 19 et dimanche 20 novembre à Djerba, en Tunisie. Je suis passé par là il y a des années, là, dans une autre vie. Voilà. Ça fait très longtemps. Voilà. Qui va réunir les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OIF. C'est l'Organisation Internationale de la Francophonie. Voilà. D'ailleurs, il marquera en tout autre le début de la présidence tunisienne. C'est ce qui fait que ça se passe là-bas, de l'organisation. Mais jusqu'à très récemment, la tenue de l'événement était incertaine. Les gens sont contents que ça puisse se passer. Ben, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas évident. Voilà. Il y a la Chine de l'autre côté, il y a la Russie de l'autre côté, il y a la Corée du Nord de l'autre côté, de l'autre bord, et on n'en finit pas. Hein, des obus qui tombent sur la Pologne, non loin de l'Ukraine, et la pandémie qui revient. Il y a trois virus qui sont en pleine circulation ici, qui ont créé leur propre autoroute au Québec. Ouais, bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y a plus rien qui va sur cette terre. Donc, il aura fallu 4 ans pour que la tenue de ce sommet se concrétise. Voilà. Initialement prévu en 2020. Voilà, vous voyez, hein, c'est 2 ans plus tard, ça se passe quand même. Donc, cette 18e édition est reportée pour une première fois en raison de la pandémie du maudit virus. Et un an plus tard, en 2021, la Tunisie était en proie à des manifestations. Vous voyez, quand je dis rien ne va sur cette planète, il ne faut pas... Ça, c'est un riz jaune, hein, ce riz que j'ai là. C'est pas un vrai riz, là. C'est un riz jaune. C'est pour dire que c'est pas jojo sur la planète Terre. Bon, la Tunisie était en 2021. Voilà, il y avait eu le Covid en 2021, des manifestations. Et puis, une partie de la population qui s'oppose au renforcement des pouvoirs du président Kais Saied aussi. Un climat de tension qui a poussé les États membres de la francophonie à reporter une nouvelle fois l'événement officiellement pour permettre à la Tunisie de l'organiser dans les conditions les plus optimales. On trouve que ça va maintenant, il y a du calme, tout s'est bien calmé. Ces chefs d'État et chefs de gouvernement vont se retrouver demain et dimanche à Djerba en Tunisie. S'il y a des vacanciers francophones qui sont là-bas, profitez-en pour aller rencontrer vos chefs d'État et chefs de gouvernement. Voilà, je leur dis un petit coucou si vous aimez l'organisme. Si vous ne l'aimez pas, n'allez pas mettre les bâtons dans les roues. Donc, dans les mois qui suivent d'ailleurs, la presse a relevé que certains pays comme le Canada s'interrogeaient. Faut-il maintenir vraiment ou non l'organisation de ce sommet en Tunisie, dont aucun État membre ne saisira finalement le secrétariat. Personne n'est allé voir le secrétariat général de l'OIF pour s'y opposer. Voilà, c'est ça. Pourquoi pas? Ouais, c'est parce qu'on reporte 1 an, 2 ans, les gens deviennent impatients. Ils disent, bon, s'il n'y a pas de stabilité, il faut chercher une autre ville, quoi, pour accueillir l'organe. 2 ans, un report de 2 ans. Si ça continuait, peut-être qu'ils allaient trouver, s'il y avait une troisième année de report, ils allaient trouver une solution pour l'organiser ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a plus de doute maintenant, ça se passe demain et dimanche. Et puis, bon, la dernière édition, d'ailleurs, qui remonte à 2018, elle avait eu lieu à Erevan, en Arménie. Pays qui assurait jusqu'à présent la présidence, quand ça se passe là dans le pays où la présidence de l'organisme, de l'organisation est assurée, c'est comme ça. Donc, plus ce vendredi, aujourd'hui, ce sont les ministres de la francophonie qui se rassemblent pour la 43e conférence ministérielle de l'OIF. La secrétaire générale de l'organisation, la rwandaise Louise Mushikiwabo, elle doit participer, elle doit prononcer aussi un discours, ça c'est clair. Elle a été nouvellement nommée. Ensuite, demain samedi, on va entrer dans le vif du sujet avec l'ouverture du sommet. Puis dimanche, une réunion à huis clos des chefs d'État qui seront présents. Parce qu'ils ne sont jamais tous là. Voilà, ils ne sont jamais tous là. Ils envoient leurs représentants, bien sûr, pour représenter le pays. Tu ne peux pas être complètement absent, ce n'est pas possible. Voilà, si tu es membre de l'OIF, si le chef d'État ou bien le chef du gouvernement n'est pas en fonction de leur calendrier, c'est comme notre premier ministre qui ne s'est pas rendu en Égypte. Il envoyait un de ses ministres là-bas, ministre de l'Environnement, parce qu'il était de l'autre côté là-bas, en Asie, voilà, en train de se quereller avec le président chinois. Bon, maintenant, quelque chose, je pense bien qu'il a bien joué son rôle de chef d'État aussi. Hein. Voilà, le premier ministre, mais c'est un chef d'État, il a dit, on a nos positions, quand on n'est pas d'accord de ce que vous faites de l'autre côté, on ne peut pas toujours se courber là, parce que vous faites des milliards d'habitants, d'hommes, d'humains sur votre territoire, que vous allez toujours nous faire chanter. Ah, je pense, c'est mon point de vue. Ça n'engage que moi, ce que je dis. Hein. Voilà. Et puis, il y aura enfin un certain nombre d'événements parallèles, notamment dimanche et lundi, et le Forum économique francophone qui va réunir le secteur d'affaires francophone. Il sera donc, comme son nom l'indique, consacré à la dimension économique de la francophonie. Au fait même, je pense bien que ça devait prendre beaucoup plus d'ampleur, le côté économique. Voilà. C'est ça, c'est pour que ces pays, c'est comme le Commonwealth, c'est pas juste, il y a aussi les projets, le côté économique qui joue un rôle très important entre les différents membres du Commonwealth. Et puis quels sont les enjeux? Il en aura des dizaines d'événements culturels sont programmés aussi en marge du sommet. Entre enthousiasme et les doutes, le sommet soulève le débat en Tunisie. Et ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? On est en pleine inflation. Mais qui n'est pas en pleine inflation? Tous les pays du monde entier sont en inflation. Même les villages les plus reculés de cette terre-là sont en inflation. À moins que tu vives simplement, tout simplement, de ce qui vient de ta petite ferme, derrière tes cases de ton village. Tu n'as pas été déplacé dans un magasin, dans une épicerie, dans la ville qui a 100 ou 150 kilomètres avant d'avoir du sel ou bien quoi. Tu manges le... Et puis, c'est des gens qui mangent plus bio que nous. Hein. Voilà, ceux qui vivent dans ces régions très éloignées, ils mangent plus bio que nous. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau courante, mais ça mange bio. Allez, restez à l'écoute après la petite pause publicitaire. Alors, Christian Lacasse va nous parler de voilà, comic book. Mais c'est vague quand j'ai dit comic book. Ça veut dire quoi? 30e anniversaire de la mort de Superman. Et puis une surprise d'un deuxième 30e anniversaire. Alors là, toi, tu n'arrêtes pas de nous gâter tous les vendredis. Là. Allez, à tout de suite. Restez à l'écoute.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Voilà, comme je disais en première partie d'émission, Christian Lacasse, vers la fin de la première partie, il est déjà là en studio avec moi, il m'a écouté parler de la francophonie.
Je ne pouvais pas m'empêcher d'être avec toi en studio.
Il était mort de rire.
Non, mais non, je t'écoutais assidûment, quand même, c'est un sujet sérieux. Là, on est carrément dans un sujet qui n'est pas du tout sérieux. Là.
Non, c'est...
Même si on parle de mort, quand même.
C'est ça. Alors, bonjour Christian.
Bonjour Monsieur Fulgence, comment allez-vous?
Je vais bien, merci, oui. J'espère de même pour toi.
Bien sûr.
Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler de l'anniversaire du 30e anniversaire de la mort de Superman.
Effectivement, c'est
et
aujourd'hui.
Et puis après ça, tu as une autre surprise pour nous, d'un autre 30e anniversaire.
Absolument. Ouais. On va commencer par la mort de Superman. C'est arrivé justement un 18 novembre en 1992. Un événement qui a marqué le comic book à sa façon.
Oui.
Donc, qu'est-ce que c'est la mort de Superman? Ça a été publié par DC Comics le 18 novembre 92, comme je le mentionnais, dans le numéro 75 de la série Superman volume 2. En fait, la mort de Superman, c'est la première partie d'une trilogie qui s'étend de 1992 à 1993. Ça compte plus d'une trentaine de numéros. La première partie s'intitule Doomsday, donc avec la mort de Superman. La deuxième partie, Funeral for a Friend, donc avec les répercussions de sa mort sur la société, sur ses amis, sur ses ennemis même. Et la troisième partie, Reign of the Superman, où quatre personnages apparaissent soudainement et prétendent être Superman, mais seulement un l'est véritablement. Puis le tout se termine avec le retour du véritable Superman. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder seulement à la mort de Superman. Pour vous situer...
Ça m'attriste.
Oui, ben ça a attristé beaucoup de personnes à l'époque. Et l'histoire, disons qu'elle est très simple. Une créature monstrueuse qui apparaît de nulle part, qui détruit tout sur son passage, des héros qui sont appelés en renfort, ils sont tous massacrés. On comprend que la créature se dirige vers Metropolis, donc on appelle Superman en renfort. Ensuite, bon, c'est une bataille sans arrêt entre Superman et la créature, qu'on va surnommer Doomsday. Et dans le numéro 75, Superman parvient enfin à arrêter Doomsday en lui infligeant un coup fatal, mais il succombe lui aussi de ses blessures dans les bras de sa fiancée Lois Lane.
Ah bon?
Car il est fiancé avec Lois Lane
à l'époque-là.
Coup
qu'il a reçu de la part de Superman, quoi.
Exactement. Donc les deux se sont...
Il s'est pas laissé faire, hein?
Non, pas du tout.
Il s'est bien défendu.
Exactement.
Il a dit, si tu me fais partir, tu me suivras après.
Voilà. Et la scène, à la toute fin, est très triste parce que, bien sûr, il meurt dans les bras de Lois Lane. D'ailleurs, à cette époque-là, dans les comic books, Lois Lane sait que Superman est Clark Kent, donc l'identité est connue, donc ça lui fait doublement mal, tout ça. Donc, pourquoi avoir décidé de tuer Superman à cette époque-là? Faut se ramener au début des années 90, DC Comics publiait un comic book de Superman par semaine, réparti sur 4 séries. Superman, Action Comics, Adventures of Superman et Man of Steel. Chacune des séries est à la fois indépendante, donc produite par différents auteurs, différents dessinateurs, mais à la fois était reliée. Donc, ce qui se passe dans la semaine numéro 1 peut avoir des répercussions sur l'histoire de la semaine numéro 2, par exemple. C'était quand même assez relié ensemble. C'est pourquoi les différents créateurs des séries avaient l'habitude de se réunir quelques fois durant l'année pour planifier à l'avance les prochains mois des aventures de Superman.
Les prochains numéros, quoi.
C'est ça.
Oui.
Donc, vers la fin de 1991, on lance l'idée qu'en 1992, Clark Kent devrait enfin épouser Lois Lane et faire du mariage un grand événement. Mais au même moment, le réseau de télévision ABC est en train de préparer une nouvelle série télé sur Superman, mais une série qui va mettre l'accent sur la relation intime entre Clark Kent et Lois Lane. La série va d'ailleurs s'intituler Lois and Clark, The
ABC,
New Adventures
c'est American Broadcasting Corporation, si je ne me trompe pas.
Voilà. Donc, c'est Lois and Clark, The New Adventures of Superman, diffusé à partir de 1993. Donc, les grands patrons de DC Comics aimeraient que le mariage entre Lois Lane et Clark Kent, ben, se déroule en même temps, à la fois dans les comic books et dans la série télé. Et on ne peut pas commencer une série télé tout de suite au départ avec le mariage des deux personnages. On veut voir l'évolution de leur relation. Donc, on demande aux créateurs des comic books de penser à autre chose. À la blague, l'auteur Jerry Ordway lance, tout bonnement comme ça, « Pourquoi pas tuer Superman? » Au début, l'idée est rejetée dès le départ, mais l'idée fait son chemin. On commence à y penser et on dit « Peut-être, pourquoi pas? » Parce qu'à l'époque, les ventes des aventures de Superman avaient grandement diminué depuis des années.
Il y avait un déclin.
Voilà, on trouve que le personnage est pris pour acquis, on dit qu'il n'est pas au goût du jour. Donc, on se dit « Pourquoi pas tuer temporairement Superman pour souligner son importance? » Donc, ensuite, comment on s'y prend? Comment tuer Superman qui est supposément invulnérable, bien sûr? Donc, les auteurs décident de surprendre le lecteur en laissant de côté les méchants traditionnels du personnage. On trouve qu'il s'appuie un peu trop sur la technologie et l'intellect, comme les fameux Lex Luthor, Brainiac, tout ça.
Ça me fait penser au vieil adage qui dit « Quand on veut se séparer de son chien, on dit qu'il a la rage.
» Effectivement.
Ça. Voilà.
Donc,
il faut lui coller des trucs à la peau, quoi. Voilà.
Ben, c'est ça. Et à l'époque, il n'y a pas de beaucoup de méchants à Superman qui peuvent rivaliser avec sa force. Donc, on opte pour un nouveau personnage qui va affronter Superman sur le plan physique plutôt que sur le plan intellectuel. Et c'est là qu'entre en scène Doomsday, un humanoïde omnipuissant avec les...
Il a un joli nom, Doomsday.
Oui, c'est la fin, là. Ça veut dire la fin. Il a les os qui sortent de sa peau.
Oui,
et on fait par exprès pour ne pas expliquer ses origines, ce qui en fait une menace totalement inconnue. Donc, c'est ça qui surprend également, non seulement Superman, mais les héros. Ils ne savent pas comment arrêter un tel personnage.
Ça surprend le lecteur aussi.
Voilà. Comment va-t-il être possible d'arrêter ce Doomsday?
Oui.
Quand ça a été annoncé que DC Comics prévoyait tuer Superman, ça a créé tout un émoi. Et c'est important de souligner, les créateurs ont l'intention de le ramener à la vie. Mais ça, on garde ça secret. On annonce la nouvelle comme si c'était la fin pour toujours et pas temporairement.
C'est pour susciter aussi la vente.
Voilà. D'ailleurs, on cesse la production.
C'est un genre de teaser.
Bien sûr.
Voilà.
On cesse la production de toutes les séries sur Superman après l'apparition de la deuxième partie de l'histoire, ce que j'appelais tantôt Funeral for a Friend, sur les conséquences.
Oui.
On veut donner l'impression que c'est terminé. Et donc, ça a reçu une couverture médiatique sans précédent, journaux, magazines, émissions de télévision, téléjournal.
Et les ventes.
Ah, ça s'en vient, ça. C'est du jamais vu pour un comic book. Et il faut comprendre, parce que Superman, c'est une icône culturelle qui est adorée aux États-Unis.
C'est culte.
Oui, depuis des années, des décennies même. C'est pourquoi, après des ventes décevantes, la mort de Superman dans Superman numéro 75 est devenue le comic book le plus vendu de 1992. Vendu à plus de... Je te laisse le deviner.
À combien de millions d'exemplaires?
6 millions d'exemplaires.
Donc, ils n'ont jamais atteint ce chiffre.
Depuis, non. Et avant, non. Donc, ici, j'ai apporté en studio mon exemplaire personnel de La mort de Superman, Superman numéro 75.
The Death of Superman.
Ça fait partie des 6 millions vendus à l'époque.
Wow.
Effectivement. Et DC Comics a capitalisé sur l'événement en vendant différentes versions de Superman numéro 75. Version standard, celle que j'ai amenée en studio. Sur la couverture, on montre une cape de Superman déchirée, déployée comme un drapeau en berne. Et il y a aussi eu une version édition spéciale. Celle-là, je me suis jamais procuré cette édition spéciale-là, tu vas comprendre pourquoi. Qui était vendue dans un sac de plastique noir avec le logo de Superman en plein centre, un logo ensanglanté. Et dans le sac, on retrouvait des cartes, un poster, un bandeau commémoratif pour le bras en guise de solidarité, l'avis de décès officiel de Superman qui a été publié dans les véritables journaux à l'époque, et la couverture de la publication fait figure de Pierre Tombal avec la mention « CJ, le plus grand héros du monde ». Cette édition spéciale-là était vendue à l'époque pour 3$, et quelques jours seulement après sa parution, certaines boutiques spécialisées dans le comic book pouvait la vendre entre 50 et 100 $. Et c'est ce qui m'est arrivé en 1992, lorsque j'ai voulu me procurer la version édition spéciale. On la vendait 50 $. Et à l'époque, c'était... non, je vais passer mon tour. Je vais acheter l'édition standard.
On ne fait pas de folie comme ça. À des moments bien donnés, il faut être réaliste. Quoi.
Oh, aujourd'hui, je l'achèterais sans...
Non, sans...
Bien sûr. Mais pas quand j'avais 15 ans à l'époque.
Ah, non. Tu as dit à papa, maman, donnez-moi 50 $ pour acheter un numéro spécial de Superman. Christian, allez, va manger.
Voilà. Absolument. Il y a même certains magasins spécialisés qui ont organisé des messes commémoratives à l'époque, en l'honneur de la mort de Superman. Mmh. Donc, c'est une histoire qui a marqué son époque, mais les répercussions de cet événement-là se font sentir encore aujourd'hui. Par exemple, le concept de la mort dans le comic book. Dans les années 90, la mort dans le comic book, c'est un concept qui n'est pas nouveau. Tous les héros au sein de leurs aventures sont morts, entre guillemets, à un moment ou à un autre, pour, à la fin de l'histoire, revenir à la vie comme si de rien n'était. Et d'habitude, ça se passe dans un seul numéro. Et au numéro suivant, tout est oublié, on passe à autre chose. La mort est aussi réservée, pas exclusivement, mais presque, aux méchants et aux personnages secondaires de l'histoire. Donc, la mort du héros principal, dans sa propre publication, annoncée à l'avance jusque dans les médias, et dont on dit que c'est permanent, c'est ça qui est du jamais vu. Depuis la mort de Superman, donc depuis les 30 dernières années, presque tous les héros majeurs, que ce soit chez DC Comics ou Marvel Comics, ont eu leur histoire de mort. Ils sont tous morts pour de bon, encore une fois, entre guillemets, à un moment ou à un autre. Donc, encore une fois, ce sont des coups de publicité pour mousser les ventes, pour créer l'intérêt, pour tenter de changer le statu quo. Mais immanquablement, tous les héros, soi-disant morts, sont revenus à la vie éventuellement.
C'est pas vrai.
Tous. Oui! Donc, le concept de la mort dans le comic book actuel, ça n'a plus le même impact que par le passé. Donc, parce qu'on sait qu'un jour, le personnage va revenir à la vie et il va vivre de nouvelles aventures. C'est pourquoi les histoires récentes, qui se terminent par la mort du héros, sont plus aussi populaires aujourd'hui. Aussi, le lecteur sait trop bien qu'une maison d'édition ne peut pas se permettre de se débarrasser définitivement d'un personnage.
Oui.
Il y a trop d'argent impliqué dans ces personnages-là. Et on passe aux produits dérivés.
Superman, c'est un mythe.
Ben voilà. les produits dérivés, les télévisions, le cinéma, même...
Les t-shirts, les... Oui. Il y a tellement, la liste est très longue.
L'image de ces maisons d'édition est intimement liée à ces personnages-là.
Ouais.
Et comme je le mentionnais plus tôt, le changement de statu quo aussi est important. C'est-à-dire que c'est un des apports immédiats de la mort de Superman en 1992 et après 1992. On décide de créer, pour presque tous les héros, toutes les séries majeures de l'époque, leur version de la mort de Superman. Donc, une histoire à grand déploiement qui implique plusieurs publications, plusieurs auteurs, dessinateurs, qui viennent changer le statu quo pour le héros central et aussi pour les personnages secondaires.
C'est pour dire que ça passe Superman seulement qu'on laisse mourir, quoi.
C'est ça.
On va laisser mourir tout le monde en même temps.
Mais c'est pas nécessairement la mort qu'on fait pour les autres personnages. Des fois, c'est un changement de personnalité. Des fois, c'est un remplacement. Tout pour changer l'ordre établi. Par exemple, tout de suite après, en 1993, Batman se fait casser le dos par un nouveau méchant et qui est remplacé par un Batman qui est plus violent. En 1994...
Parce qu'on le trouvait trop doux?
Le personnage trouvait qu'il était pas assez rude, effectivement.
Ouais, ça c'est typiquement nord-américain.
Mais...
Où est ça? Voilà,
mais éventuellement, véritable Superman avec ses valeurs est revenu. C'est ça qui se passe tout le temps. En 1994, Spider-Man est remplacé par son clone qui se déclare comme le véritable Spider-Man. Et c'est arrivé à plusieurs séries, en fait, presque toutes les séries majeures dans les années 90. Il y en a une panoplie, comme je le disais, dans les années 90. Puis malgré tous les changements, en bout de ligne, le statu quo finit par revenir éventuellement. On aime que...
Ça, c'est clair.
On aime que les personnages évoluent et qu'ils changent, mais pas trop. Si c'est trop drastique, si c'est trop invraisemblable...
Tu écartes le consommateur de son image qu'il a du héros, du personnage, voilà.
Et même si on dit que c'est irréversible, un jour, ça revient.
Ça revient, oui.
Il faut que le personnage original revienne en force. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de la mort de Superman? Ben, c'est le début des histoires à grand déploiement qui affectent personnellement le héros. C'est un genre qui est encore récurrent dans les années depuis 30 ans. C'est des coups de publicité. On s'entend, déguisé en élan créatif qui tente d'amener quelque chose de nouveau. Il y a certaines des histoires au fil du temps qui ont été mieux reçues que d'autres, mais en bout de ligne, leur rapport au comic book est diminué parce que le statu quo finit toujours par revenir. Pour ce qui est de la mort de Superman, ben, il y en a qui apprécient son côté ambitieux, d'autres dénoncent le fait que c'est un coup de publicité. Il y a même des gens qui n'ont pas apprécié le fait qu'on annonce la mort du personnage et que seulement quelques mois plus tard, ils reviennent à la vie. On dit que on s'est fait duper. Vous nous aviez dit qu'il était pour mourir.
J'allais réagir de la même manière si j'étais...
Il y a des gens qui ont cessé de lire.
J'allais réagir de la même manière.
Intéressant.
Une manière de faire du pognon.
Ça dépend des goûts.
C'est un milieu de business, ça, il faut comprendre aussi. Faut pas se voiler la face. Les gens, ils font pas ces numéros juste pour la...
Et d'un côté narratif, c'est pas la meilleure histoire au monde parce que c'est ultra simple, on s'entend, là. Mais par aspect de nostalgie, c'est intéressant quand même. Moi, j'en garde un bon souvenir, 30 ans plus tard, quand même, parce que ça fait partie également d'un autre anniversaire que j'aimerais souligner, un autre 30e anniversaire. Et ça se produit la journée où je me suis procuré de
ce numéro-là. 1992.
Je me suis procuré ce numéro-là deux jours plus tard. Après, donc, c'était vendu le 18. Je me suis procuré ça le 20 novembre. Parce que le 20 novembre 1992, c'est aussi l'anniversaire de mes débuts à la radio.
Ah,
c'est la même journée que j'ai commencé à faire de la radio. Donc, ça fait 30 ans que je fais de la radio. Et j'en suis des plus heureux.
C'est ton deuxième
honoré.
Anniversaire, 30 ans, surprise là, bravo, félicitations.
Fait plaisir, merci beaucoup.
Tu te rappelles quand on s'est rencontrés à Promédia, on était les deux qui avons déjà fait de la radio, les autres n'ont jamais vu un studio de radio d'abord, il faut se le dire. Tout le monde rêvait de devenir star et autres.
Oh oui.
Voilà.
Ça n'a jamais été mon but de devenir une star.
C'était vraiment
pour l'amour de la radio.
L'amour de la radio, on s'est retrouvés là et puis c'était mon cas. Moi, je travaillais en informatique et j'étais déjà 2 ans de radio à Radio Centre-Ville avant de me retrouver.
Ouais.
Dans la promotion 2008 avec toi à Promédia. On a eu du fun quand même.
Oui, on a eu du plaisir. Mais ça fait drôle quand même d'avoir la possibilité de faire de la radio 30 ans plus tard.
Ah oui.
Surtout quand tu réalises, mon Dieu, j'ai eu un parcours assez...
Tu as fait plus longtemps que ça. Moi, j'avais seulement deux ans de radio à Radio Centre-Ville avant d'aller à Promédia. J'ai commencé en 2006. Et donc là, voilà, tu avais déjà une dizaine d'années,
c'est
de,
ça.
D'années de radio.
Ce qui est drôle, c'est cette journée-là du 20 novembre 92. Ça a été une journée des plus remplies. Le matin, moi et un groupe d'amis, on est allés à une des grandes radios FM de Montréal, assister à une émission de radio, parce que le public était invité à assister.
C'est comme ça que le virus t'a...
En fait, c'est arrivé l'année d'avant, en 1991. La première fois que j'ai mis pied dans un studio de radio, c'est là que je suis...
Que j'ai vu une console, des micros, par-ci, par-là.
Je suis tombé en amour avec l'atmosphère, le studio.
Oui.
Et c'est là que je me suis dit, j'aimerais ça en faire un jour. Et donc, en 92, j'étais au secondaire 4, et... on décide d'instaurer une nouvelle radio. Et donc, moi et mes amis, on a dit, OK, on devrait faire une émission de radio. Donc, cette journée-là, du 20 novembre, le matin, assiste à une émission de radio. Ensuite, on s'est dirigé chez notre marchand de comic book préféré pour se procurer La mort de Superman. Et c'est là que j'ai vu copie édition spéciale à 50$ que je ne me suis pas procuré. C'était... Non.
Pour l'époque, c'était beaucoup quand même, 50$.
C'était énorme.
Ah non, c'était beaucoup. C'était assez d'argent.
Et on pensait effectivement que c'était pour devenir des objets de valeur. Mais comme je le disais plus tôt, en vendant 6 millions de copies...
Oui, il y a beaucoup de gens qui se sont prouvés que ça ne vaut pas grand-chose.
Ça ne vaut pas grand-chose. Ça vaut un
peu. Pas un numéro qu'on peut vendre actuellement à 1000$, 2000$.
Non, pas du tout. Et jamais.
Il y a d'autres numéros qui ont plus de valeur que ça actuellement.
Effectivement. Ah. Et après le comic book, on s'est dirigé à notre école secondaire à l'époque, et c'était une journée de congé, c'était un vendredi, et on a fait notre démo radio. On était la seule équipe de 4e secondaire à faire le démo, les autres, c'est toute la 5e secondaire, en bout de ligne, on s'est fait offrir une émission immédiatement parce qu'on s'est fait dire « Vous êtes les meilleurs! Voilà. » Donc, ça a fait plaisir. Et on a terminé la journée à Radio-Canada, pour l'enregistrement d'une émission de télévision.
Oh!
Alors, ça a été une journée absolument remplie.
La télé, c'est autre chose. C'est tout un village qui se déplace.
Jamais intéressé par ça.
Ouais. Ça a été vraiment... tout un village qui se déplace.
La radio. Donc, depuis 30 ans, je fais de la radio. J'en ai fait secondaire, cégep, université, communautaire, web, petit soubresaut.
Ouais, tout.
Ouais.
Parce que là, vraiment, de toutes les façons,
c'est... J'ai fait de la radio... ce que je faisais le plus souvent, c'était de la radio humoristique, c'est-à-dire un concept humoristique sur l'actualité, humour, humeur. Et quand j'ai commencé à faire de la radio seul, à partir des années 2000, donc à l'université, par la suite, j'ai produit au-delà de 1500 capsules humoristiques.
Tu en as fait. Je me rappelle de tes trucs.
Oui, je t'ai invité à mon émission à l'époque.
Voilà, j'allais écouter tes trucs que tu faisais. Ouais. Voilà.
Et donc, j'aimerais, en terminant, il faut que je termine là-dessus. Merci énormément, Fulgence, de me donner l'opportunité de faire une chronique sur un sujet qui me passionne quand même.
Je sais, quand tu parles de comic book, tes yeux brillent.
Oui.
Les gens te voient pas.
Voilà. Mes yeux brillent parce que tu es là, Fulgence, franchement. mais c'est...
On le
c'est,
sent dans ta voix même, d'ailleurs.
Mais c'est un honneur et un plaisir de venir en studio, partager une passion et aussi être capable de faire une émission.
Merci, si
c'est 15 minutes par semaine. 30 ans plus tard, ça fait grandement
quand
chaud.
Quand tu m'as dit, Fulgence, la radio ne me manque, et je sais que tu gagnes ta vie autrement.
Exact.
Voilà, quand tu m'as dit, Fulgence, la radio me manque, j'ai dit, mais il faut que tu viennes parler de tes histoires de comic book. Merci à toi.
Je t'en remercie énormément.
Et on se retrouve dans 2 semaines.
Effectivement, dans 2 semaines.
Voilà, merci Christian.
Merci,
oui.
Au revoir.
Alors, merci Christian Lacasse qui est venu nous parler de la mort, 30e anniversaire de la mort de qui? Superman, le héros, le classique. Voilà, bon, j'ai parlé de francophonie, mais je vais parler maintenant de quoi là? De Formule 1. Oh non, on dit toujours tel père, tel fils, est-ce que c'est toujours vrai? Non, non, ça peut pas être toujours comme ça. En Formule 1, course au Grand Prix, course au... Et la dernière course, c'est cette fin de semaine à Abu Dhabi, hein, n'oubliez pas, pour ceux qui savent pas. Où il y a eu le scandale l'année passée. Mick Schumacher, le fils de Michael Schumacher, après deux petites saisons, voilà, son contrat ne sera pas renouvelé. Voilà, c'est triste hein, pour le garçon. Je l'aime bien ce petit-là, il est tellement... Voilà, le pilote allemand Mick Schumacher, de l'écurie Haas, fils de Michael Schumacher et neveu de Ralf Schumacher. Et lors d'une conférence de presse à Abu Dhabi, aux Émirats, où ils sont actuellement d'ailleurs, parce que... Ils ont fait les courses de classement. Ça va être dimanche à Abu Dhabi. Je pense bien que... Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas, ça va pas être... Son père qui occupe... c'est une légende comme Lewis Hamilton. 7 titres au total. Je ne sais même pas s'il est guéri. Non, il n'est pas guéri. Il est toujours en souffrance. Il a fait une chute en faisant du ski. Je parle de son père, mais pas de Mick. Donc, après deux saisons, Schumi Junior va quitter, sauf rebondissement de dernière minute, l'élite du sport automobile ce dimanche après la dernière manche de l'année à Abu Dhabi. Peut-être pas pour toujours, mais à 23 ans seulement, la route est encore longue, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a une autre équipe, une autre écurie qui va dire « Allez garçon, tu as réfléchi un an de repos durant tes 12 mois de repos ou bien 6 mois. Viens, on te donne la chance d'essayer de nous prouver ce que tu peux. Pas contre ton père, mais c'est gênant. Il va rester toujours dans l'ombre de son père. Voilà, Michael Schumacher. Schumi, on l'a connu comme un grand coureur, un grand pilote. 7 fois champion comme Lewis Hamilton. Si Lewis Hamilton gagne l'année prochaine, en 2023, avec quelle nouvelle voiture de Mercedes? Parce que cette année 2022, Mercedes n'a rien donné, en gros. Alors, Maurice, j'ai encore une minute au moins? Oui. Me fera signe pour qu'on rate pas la dernière pièce musicale et pour que je puisse te remercier et remercier les auditeurs et les invités. Alors, ce garçon, je pense bien que, voilà, c'est on sait pas ce qu'il va faire, Mick. Du courage, je pense bien qu'il y a une équipe qui va te dire, bon, allez, viens, même si tu n'es pas si bon que ça. Après tes deux petites saisons, nous, on te garde, tu vas avoir de la maturité pour aller de l'avant avec ça. Allez, je dis merci à Maurice Bolduc. Merci, Maurice. Pour la régie. Et merci à notre invité Éric Grenier, cofondateur de Netlow, qui est venu parler de la première application au Québec qui offre une vitrine gratuite aux grandes entreprises et PME québécoises. Voilà, et puis merci à vous, chers fidèles auditeurs. Merci à Catherine Bourdouron, la recherche de l'émission. Et vous, chers fidèles auditeurs et auditrices, merci de votre fidélité. Passez une belle fin de semaine malgré la neige, le froid qui nous colle à la peau. Et puis on se revoit la semaine prochaine, à partir du lundi. À la même heure sur les ondes de Canal M. Sur ce, je vous dis ciao, mais la pièce qui passe, c'est qui? C'est Princess Amira, au Kifundi Dike. Merci. Ciao.
Ebigambo bibadde bisusi Onyambe toyononye budde Yette omaze onze nontute Ochikozo tonkubya chigone nkone nywete Ere nywete Nirutabalo ntabadde Twala joyagadde Okusaliza kwonkutadde Zebyo nankuwadde Labe wango tadde yoloko Ojitadeyo, ono manga chivoko Wala ikwe milandira Ojifundi kide sebo Ejitufola zemelazo Pano kabaje Ojikubyo musumali Ojifundi kide Ejitufola zemelazo Pano kabaje Ojikubyo musumali Ongobye chivubalo Njoze sanu teka katandalo Goma sanyala za ganjo geza nensinge mizindalo Oli mayengo kumwalo Kare tanzalo Toli satu toli birinya Mkuita tano Saga lombule
byennyanda abasonye namba okifundikidde ekitufu olaze mmeera zo banuka bajje okikubye omusumali okifundikidde ekitufu olaze mmeera zo banuka bajje okikubye omusumali Sindikide, aganya bochi fundikide, tobanga bakumpendulide, mwana kochi fundikide, olinga kweba sindikide, aganya bochi fundikide, tobanga bakumpendulide, bochi fundikide, echi tufola zemmerazo.